Que vous dire? Voilà, je pense qu'il y aura des traces, donc je vais pas le cacher. J'ai versé mes petites larmes. Merci infiniment pour l'accueil, pour tout le boulot effectué. Merci au prix d'accepter de me recevoir ici, puis à toute l'équipe éducative. Je suis ravi. Voilà, c'est.
Mais est-ce que vous avez commencé à écrire dès les premiers jours?
Ouais, première semaine. Première semaine. En fait, c'est. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu dans le retravail, une fois qu'on a plein de textes et qu'il faut en faire un livre. Le premier chapitre, c'est pas le premier chapitre que j'ai écrit. Le premier chapitre que j'ai écrit, c'est le deuxième, qui commence par pour qui produisons-nous 40 tonnes de crevettes par jour? Je pensais dans ma tête à un très beau poème de Bertolt Brecht, je ne sais pas si vous connaissez, un écrivain allemand, écrit en 1936, qui s'appelle Question que se pose un ouvrier qui lit, qui est un très très beau poème, très court. Et en gros, c'est un ouvrier qui lit plein de livres et qui se pose plein de questions sur la nature du monde. Et moi, dans ma tête, pour passer le temps, j'écrivais l'inverse du poème de Brecht. Question que se pose un intellectuel à l'ouvrage. Donc pour qui? Et donc j'essayais de faire vraiment l'inverse du poème de Brecht. Et en calquant, comme vous avez fait vous, en calquant le début, la fin. Brecht, il finit par autant d'histoires, autant de questions, et moi je finis par autant de crevettes, autant de questions. C'est carrément le même boulot que vous avez fait. Et je le fais comme il le fait en vers libre, je le fais en vers libre aussi. Et je trouve que ça colle bien, et puis je continue à écrire comme ça, et puis après c'était foutu, quoi. Je raconte pas les trois quarts des trucs les plus glauques que j'ai vus, parce que si j'avais écrit un texte en racontant les trucs les plus glauques et que je m'étais réveillé le matin en relisant mon texte de la veille, qui ne serait pas retourné, quoi. C'est un peu aussi une volonté d'auto-persuasion que tout ne va pas si mal.
Moi, j'ai pensé à Primo Levi.
Ouais, ou à Chantal Delbault, ou moi, je pensais beaucoup plus à tous les grands récits de poètes ou de romanciers engagés ou mobilisés en 14, qui se sont retrouvés du jour au lendemain. Enfin, Genevoix, Aragon, Sandrard, Céline, Breton, Apollinaire, qui se retrouvent du jour au lendemain confrontés à la boue, au sang, à la merde, à la peur, aux odeurs, avec des gens du petit peuple, auxquels ils n'étaient pas du tout préparés. Et leur écriture, elle devient tout de suite complètement différente. Elle devient beaucoup plus sèche, elle devient plus... Voilà, le meilleur pote de Genevoix, c'était un petit breton analphabète, quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé des gens avec lesquels j'aurais jamais pensé partager autant de choses. C'est un peu la tranchée tous les jours, quoi.
Est-ce qu'il y a une part de fiction ?
Oui. Oui et non. Il y a une part de fiction en ce sens que tout n'est pas dit. Après, on ne peut jamais tout dire. Qu'il y a des choix dans ce qui est raconté, qu'il y a des passages qui ont sauté au travail, qu'il y a des passages qui ont été réajoutés, qu'il y a des passages que, ça c'est mon privilège d'écrivain, que j'embellis ou que je déforme volontairement. Et il y a des... Maintenant, comme on dit, le filtre du temps opère sur la mémoire. Il y a des passages où je me demande si c'est moi qui les ai inventés ou s'ils sont réellement passés. Pour ceux qui l'ont lu, il y a un chapitre sur les bonbons arlequins. Et c'est effectivement de coutume que de s'offrir des bonbons arlequins quand on se donne des bonnes nouvelles ou fêter un anniversaire. Et je parle des légendes de la naissance du bonbon arlequin. Et ça, je ne sais même plus si c'est une histoire que j'ai inventée ou si je l'ai vraiment entendue. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde me parle des bonbons arlequins. Et il y a cette très très belle... pour revenir sur Sandrars, si vous n'avez pas lu La prose du Transsibérien, lisez La prose du Transsibérien, vous allez être bouleversé. Il est interviewé en 52, je crois, par Marcel Duhamel. Et Sandrard, c'est quelqu'un qui a aussi bien aimé se construire sa propre légende, quoi. Et il lui fait, mais alors, au fait, Sandrard, vous l'avez vraiment pris, le Transsibérien ? Et Sandrard lui répond, qu'importe, puisque je vous l'ai tous fait prendre. Et c'est ça, la magie de la littérature. Moi, j'ai pris le Transsibérien avec Sandrard.
Nous, on a travaillé à l'usine avec toi.
Bah, merci. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité à Belle-Île. Alors pareil, si vous ne l'avez pas lu, lisez Les Mousquetaires de Dumas, toute la trilogie. À votre âge, c'est parfait. Et Porthos meurt à Belle-Île. À la fin de... Je spoil un peu, mais à la fin de Bragelonne. Mais vous avez un peu de temps de bonheur devant vous avant d'arriver à la fin de Bragelonne. Porthos meurt à Belle-Île. On sait bien que Porthos n'a jamais existé. Enfin, surtout pas comme ça. Que Dumas n'est jamais allé à Belle-Île. Et je suis allé en pèlerinage sur la grotte où soi-disant Porthos est mort. Et je suis convaincu d'avoir vu la grotte où Porthos est mort. C'est pas grave. Bon, par contre, j'ai vraiment bossé à l'usine, hein, ça je vous raconte.
Alors, comme vous avez dit avant, vous avez gardé contact avec vos anciens collègues.
Ouais.
Et je voulais savoir s'ils avaient lu le livre, comment ils l'ont reçu.
C'est les premiers, après mon épouse et ma maman, auxquels j'ai annoncé que j'allais sortir un livre. Et en fait, ils ne savaient pas, pendant 2 ans et demi, ils n'ont pas su que j'écrivais. Et on s'est tous réunis un vendredi à la fin de la semaine, et je leur ai lu des passages, avant même la publication du bouquin. Déjà pour avoir leur avis et leur sentiment, voir si je racontais pas de conneries. Et puis comme il y a pas mal de passages qui parlent d'eux, je voulais leur lire les passages, pour qu'ils soient informés de ce que je leur raconte. Quoi. Tu vois, s'il y a un collègue qui me dit bah, « je veux pas du tout que ça apparaisse », pas envie de... Enfin, tu vois, j'en ai chié pendant 3 ans avec eux, c'était, ça, j'essaie pas de leur faire du tort, quoi. Et puis le premier truc que je leur ai demandé, c'est est-ce que je garde vos prénoms? Tu sais, quand tu lis le journal, tu vois machin, le prénom a été changé, etc. Et ils m'ont tous dit, surtout tu gardes nos prénoms parce que ce que tu racontes, c'est beau et c'est nous.
Vous auriez pu tenir mentalement sans l'écriture?
Non. Ni sans l'écriture, ni sans les souvenirs de lecture, les souvenirs de poésie, les souvenirs de chansons. Moi, c'était ma façon de passer le temps dans ma tête. Donc déjà, me réciter des poésies. J'aime beaucoup aussi des grands auteurs en prose, mais c'est beaucoup plus difficile de se réciter des auteurs en prose parce qu'il n'y a pas ce rythme, il n'y a pas cette cadence. Et c'est rigolo, on en discutait avec Bernard, c'est des poésies que j'avais apprises en étant tout gamin, qui me sont revenues de manière très... comme s'il fallait chercher au plus loin de ses ressources pour pouvoir tenir. Et donc je remercie jamais assez les profs de faire lire de la poésie et d'apprendre des poésies aux élèves, parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais peut-être que dans 30 ans, tu te souviendras de poésie qu'un de tes profs t'a appris et...